Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Jusqu'au 29 novembre, pendant le rendez-vous Air France, vivez et écoutez toute la magie d'un premier rendez-vous.
Wow.
C'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde. Par exemple, New York, à partir de 349 € au départ de Paris. Et avec Air France Protect, vos billets sont 100% modifiables et remboursables jusqu'à votre départ.
Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 22 novembre au 19 décembre 2021.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont permis la victoire alliée lors de la Seconde Guerre mondiale. Et quand on pense à tous ces gens, les images qui viennent à l'esprit sont celles de soldats au combat, sous la mitraille, de résistants dans leur maquis, de parachutistes qu'on déploie au-dessus de champs déserts au hasard de la nuit. Mais derrière ces héros, on évoque plus rarement ceux qui, à des postes, c'est vrai, nettement moins exposés, ont contribué quand même, à leur manière, à l'effort de guerre. Et c'est le cas de l'homme dont je vais vous parler, de cet homme a priori assez ordinaire, qui s'appelle Clifton James. On est en 1944, il vient d'Australie, il est natif d'Australie, Clifton James, il a une bonne quarantaine d'années. Il travaille au cœur de l'Angleterre, à Leicester, pour le service de la paye aux armées. Autrement dit, c'est un lieutenant qui mène une vie moyennement excitante, vous l'aurez compris. Son rôle est très différent, en tout cas, de celui qu'il a tenu lors du premier conflit mondial, car là, il était sur le front de la Somme, et d'ailleurs, il a perdu le majeur de la main droite à cette occasion. Sur le papier, Clifton James n'a rien de très particulier. C'est pas un bel homme, c'est pas un homme brillant, il n'est pas particulièrement charismatique. Ah, tout de même, il y en a beaucoup qui le taquinent parce qu'avec son visage en forme de poire renversée, avec son nez volontaire, ses oreilles un peu décollées et ses petits yeux, il présente une ressemblance assez extraordinaire avec le général Montgomery en personne. Oui, le grand Montgomery, le héros d'El Alamein. D'ailleurs, Clifton, à ses heures, joue de cette similitude. Après tout, il est comédien de profession. Et il se lance, au cours de spectacle pour ses camarades, dans une espèce de parodie du général Montgomery. Il est en tenue militaire, un béret vissé sur la tête, et le voilà qui singe le général si populaire. Il le fait gentiment, il glane les rires, les applaudissements. Bon, on peut pas dire que la modeste carrière d'acteur qu'il a menée avant-guerre l'est tellement habitué aux applaudissements, pour tout vous dire. Jusque-là, rien de très extraordinaire. Seulement voilà qu'un jour, Clifton reçoit un coup de téléphone inattendu. C'est l'acteur David Niven en personne qui veut savoir, au nom du War Office, s'il serait partant pour jouer dans un film de propagande. Ah, ça, c'est une chance que Clifton n'a pas du tout l'intention de manquer. Et puis, pas longtemps après, on lui fixe un rendez-vous dans un hôtel de Leicester avec un certain colonel Lester, qui est un supposé intermédiaire, qui en fait n'est pas n'importe qui, puisque ce colonel est un membre des services secrets.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors il n'y a pas une mais deux rencontres avec cet agent qui va finalement dévoiler à Clifton ses vraies intentions. Il a une mission très spécial à lui confier. Une mission qui n'a rien à voir avec un tournage de film, en vérité. Pour comprendre tout ça, il faut quand même que je vous donne un petit peu le contexte. On est au printemps 44, la grande affaire, c'est le débarquement projeté sur les côtes de Normandie, bien sûr. Les Allemands n'ignorent pas qu'une telle opération est en train de se préparer, seulement ils ne savent ni à quel endroit ça va avoir lieu, ni à quel moment, bien entendu. Les Alliés, pour augmenter les chances de réussite, ont mis au point tout un système. Ils ont cherché tous les moyens possibles pour faire partir les nazis sur de fausses pistes. C'est ce qu'on appelle le plan Fortitude, qui a comporté un grand nombre de chapitres et de volets. Or, en janvier 44, un important officier nommé Dudley Clark a assisté un petit peu par hasard à la projection d'un film américain de Billy Wilder dans lequel Montgomery était interprété par un comédien très ressemblant, et d'un seul coup, ça lui a donné une idée. Il s'est dit, et si les services secrets employaient ce comédien pour le faire passer pour le célèbre général? Au moment où le vrai Monty achèvera l'organisation du débarquement, ben il y aura le faux qui pourra comme ça être baladé hors d'Angleterre pour faire diversion, si vous voulez. Et les ennemis, en voyant le général Montgomery très loin de ses troupes, en train de les troupes étant en train de se préparer à traverser la Manche, eh bien les ennemis en déduiront qu'il ne peut pas lancer une opération en même temps et qu'il prépare un plan annexe ailleurs. Bref, le principe de cette opération nommée Copperhead est simple, sauf que l'exécution n'est pas aussi simple que ça. Voilà ce que nous dit dans The Deceivers Thaddeus Holt. Une enquête a montré que l'acteur employé par Billy Wilder pour jouer Montgomery était trop grand. Une recherche a permis de dénicher un autre acteur pouvant convenir, mais celui-ci s'est cassé la jambe dans un accident de voiture. Ah ben décidément, ça va être difficile évidemment de le faire passer pour le général Montgomery. C'est alors que des officiers repèrent une photo de Clifton James en train de parodier Monty, une photo qui est parue dans un journal militaire. Alors, c'est vrai que ça n'est que le troisième choix, mais ça a l'air assez convaincant. C'est comme ça qu'on a contacté notre Clifton, et quand on lui a expliqué l'idée, d'abord, dans un premier temps, mais on peut se mettre à sa place, d'abord il a été effrayé. Et puis, il y a réfléchi, évidemment, et puis l'excitation l'a emporté, et il finit par accepter la mission. Dès lors, il va falloir le préparer, parce que entre imiter comme ça Monty pendant quelques minutes sur scène, et puis être Monty devant toutes sortes de personnalités, c'est pas tout à fait le même travail, bien entendu. Clifton doit connaître le général dans son quotidien, il doit comprendre ce qui fait l'étoffe du grand homme. Certes, il a la tête de l'emploi, mais il a pas l'aura personnelle du grand général, évidemment. Alors on va tout organiser, Clifton se voit gratifié de coachs qui vont le guider et il va avoir le privilège de passer quelques jours aux côtés du véritable général pour l'observer, pour capter ses tics, sa façon d'être. Bref, le modeste Clifton James vient sans doute enfin de décrocher le rôle de sa vie. Je vais vous parler de David Niven il y a un instant. Il était un des acteurs à l'affiche du célèbre film de Jack Lee Thompson, Les Canons de Navarone, dont vous venez d'entendre la bande originale. Une bande originale signée Dimitri Tiomkin.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, il faut que je vous raconte la scène de la rencontre entre le vrai et le faux Monty. On est début mai 1944 dans la région de Portsmouth. Le débarquement est en train de se préparer. Notre acteur prend ses quartiers dans un camp et puis on va le coller dans une voiture pour l'emmener jusqu'à la maison de campagne qui abrite le vrai général Montgomery. Il est très fébrile, Clifton, vous imaginez, il ne se sent pas au mieux. Il porte en plus des bottes qui sont trop neuves et qui lui font mal. Bref, on le fait attendre un petit peu et voilà qu'il se retrouve en présence du grand homme. Bien entendu, il va pas pouvoir lui parler comme il voudrait, lui poser toutes les questions nécessaires. Il va devoir veiller à ne pas encombrer Montgomery. En revanche, il peut le suivre de longues heures, parfois être tout près. Ça le conduit notamment sur une grande plage où le général place ses hommes dans des conditions du débarquement. Et là, c'est une démonstration pour lui. Clifton est admiratif de cet homme. Il est à la fois épaté par sa bienveillance avec les petits, par sa fermeté, par cette capacité qu'il a à mener tout le monde à la baguette. Et l'acteur mesure à quel point ça va être difficile de se faire passer pour un bonhomme de cette envergure. Alors il s'investit pleinement dans son rôle, il écoute beaucoup Montgomery parler, il scrute, il note toutes sortes de petites informations sur son modèle, et puis petit à petit, eh bien, il va se révéler bon acteur, voire très bon acteur. Dans Les Secrets du jour J, Opération Fortitude, le grand Bob Maloubier, vous savez, qui lui-même était un agent secret extraordinaire, raconte « Il parodie à la perfection les attitudes de Montgomery, sa voix grinçante, son léger bégaiement. Les tailleurs du gratin, Meyer et Mortimer, lui ont coupé sur mesure un uniforme. On lui a fourni une montre de gousset, la chaîne et la breloque allant de pair, tout ça en or massif. Une canne très fine, des mouchoirs brodés aux initiales BLM. Enfin, la faculté à ciseler une prothèse du doigt qu'il a perdue. » Et oui, il ne faut pas qu'on pense que le général Montgomery a perdu un doigt, évidemment. Le voilà maintenant au pied du mur, notre acteur, si je puis dire, notre sosie. Il est porté par l'enjeu. Il sent sur ses frêles épaules peser un poids terrible parce qu'il sait très bien que là, il n'y aura pas de répétition et qu'il n'y aura qu'une prise dans ce rôle-là. Le vendredi 26 mai, vous voyez qu'on approche du jour J, hein, qui va avoir lieu le 6 juin prochain, bien entendu. Le 26 mai donc, la mission commence, parfaitement habillé en général Montgomery, avec son béret bien en place. Clifton monte dans un avion, direction Gibraltar, mais oui, on l'envoie là-bas sur ce caillou britannique qui ferme la Méditerranée. Quel est son état d'esprit? Pas terrible, apparemment. Certains auteurs disent même qu'il aurait abusé de boissons alcoolisées à bord pour calmer ses nerfs, alors que le vrai Monty, le vrai général, lui, ne boit jamais. Enfin, d'ailleurs, ça, certains disent que c'est pas si vrai que ça. Bref, quoi qu'il en soit, l'atterrissage a lieu à Gibraltar, pas question de reculer maintenant. Clifton doit être le général Montgomery, il prend une grande inspiration. Et le voilà qui paraît sur le tarmac. Alors, il y a toutes sortes d'autorités locales qui sont venues pour recevoir le très haut personnage. Sous son uniforme bardé de décorations, le cœur de Monty se presse. Mais malgré tout, il va tenir son rôle. Il va faire illusion. Et puis, il faut se rendre à la maison du gouverneur. Parce qu'il doit déjeuner avec le gouverneur. Vous imaginez comme ça va être facile. Il y a des habitants qui l'aperçoivent, des habitants de la ville. Alors, on l'applaudit, on crie « Oui, vive Monty, vive Monty !» Bon, pour l'instant, everything's under control, comme disent les Anglais. Mais il n'a pas fait le plus difficile. À la maison du gouverneur, il va lui falloir s'approcher d'un certain nombre de notables, soutenir de petites discussions. Vous savez que les Anglais sont très doués pour le small talk, mais enfin quand même, il va falloir dire quelque chose. Le danger peut être dans la moindre réaction, une simple hésitation. Imaginez une confusion malencontreuse. Tout ça peut remettre en cause le plan dans son ensemble. Pierre Belmar et Jean-François Namias, que je salue, ont travaillé sur ce sur ce dossier et il nous le raconte. Il est salué, dit-il, par son camarade à l'école de guerre, seul Ralph Eastwood, qui lui lance un jovial « Hello Monty, sacré vieux haricot !» Et ce dernier lui sert vigoureusement la main et lui lance « Salut Rusty, ça fait rudement plaisir de te voir !» Alors malgré le temps, vous imaginez bien que tout ça a été... On a eu quelques semaines seulement pour se préparer, mais ça a été très bien rodé. Les nazis ont sur place à Gibraltar des informateurs, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Et le faux Monty va jouer avec leurs nerfs. On le voit discuter très sérieusement avec Eastwood, en murmurant, ça semble être une question d'affaires sensibles. Le comédien a beau jeu de parler à peine trop fort d'un mystérieux plan 303. Alors là, aussitôt, les Allemands se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce plan 303? On fait en sorte que l'air de rien, Clifton croise un espion nazi, parce qu'on l'a repéré celui-là, on sait qu'il est à Gibraltar. Bref, la nouvelle de l'étrange déplacement de Montgomery circule. Ça va durer que quelques heures. Clifton est vite reconduit à l'aéroport et on va l'emmener maintenant à Alger. Et dans l'avion, on le félicite pour la réussite de la première phase des opérations. Seulement, on l'avertit. Souvenez-vous que votre travail principal est de vous montrer de manière efficace et adaptée. Ça ressemble quand même à un avertissement, ça. Clifton ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Il doit rester concentré. L'aventure continue, le gros est pour demain. Bande originale, celle du film de Tom Eberhardt, Élémentaire, mon cher Lock Holmes. C'était une musique signée Henry Mancini. Le Cincinnati Pops Orchestra était sous la baguette d'Erich Kunzel.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Évidemment, je raconte ça comme une histoire amusante, parce que c'est très amusant, mais c'est aussi très sérieux. Il y a des enjeux qui sont colossaux. Le but, c'est de donner des sueurs froides à Hitler et à son état-major. C'est de faire en sorte que les Allemands partent sur une fausse piste. Et pour cet homme qui n'est qu'un comédien, vous l'avez compris, voyez un peu la responsabilité qu'on lui a fait endosser. Mais comme toujours dans les grandes circonstances, cet homme-là est porté par la foi qu'on a placée en lui. Il arrive maintenant à l'aéroport d'Alger. Allez, deuxième épisode, il va falloir continuer à jouer la comédie, avec là aussi un certain succès, si l'on en croit la réaction des badauds présents dans ce lieu très fréquenté qu'est l'aéroport d'Alger. C'est Clifton lui-même qui le racontera d'ailleurs. Nous avançâmes devant des personnes en train d'attendre, un groupe hétéroclite de Français, d'Arabes et de tout ce que la terre peut porter, jouant du coude pour apercevoir le grand Montgomery. On m'a présenté une voiture, superbe modèle américain. Nous avons quitté l'aéroport, les sirènes de moto hurlant de manière à nous ouvrir la voie. Ah, on se fait vite au jeu en même temps, hein. Les informateurs à la solde des Allemands ne vont pas manquer une seule miette de ce qui est un véritable spectacle parfaitement orchestré. Clifton leur donne quelques os à ronger et les autres se posent toutes sortes de questions. Mais que vient faire Monty à Alger? On le croyait en train de préparer un débarquement en Angleterre et le voilà en train de se promener en Afrique du Nord. Et pourquoi est-ce qu'il est dans cette grande maison à l'écart? Qui est dans la maison? Qui veut-il rencontrer? Et pour préparer quoi surtout? Vous imaginez que ça commence à carburer, si je puis dire, dans les crânes de tous les espions allemands qui sont là. On formule toutes sortes d'hypothèses, on commence à établir des rapports. Un officier britannique s'en amuse, évidemment. Il glisse à Clifton à la fin de cette séquence algéroise. « Je parie que vous leur avez causé un sacré mal de tête à Berlin. » Et oui, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, personne n'a douté un instant que c'était le vrai général Montgomery qui était en train de se promener à Gibraltar, puis à Alger, puis au Caire. Parce que le lendemain, on emmène notre acteur au Caire, où il est supposé stationner quelques jours incognito, comme s'il avait disparu. Alors pendant qu'il est en Égypte, le vrai Montgomery, en Angleterre, vit des moments décisifs. Puisque ça y est, le 6 juin est arrivé, c'est le débarquement, c'est l'extraordinaire déferlement que je n'ai même pas besoin de vous raconter, bien sûr. Cet immense flot d'hommes déversé sur les côtes normandes, un nouveau front terrestre s'ouvre en Europe contre les forces nazies. La mission de Clifton, vous l'aurez bien compris, est tombée du même coup. Mais cette mission, il s'est montré parfaitement à sa hauteur. On peut dire que s'il a terminé la mission, c'est avec les honneurs, mission accomplie, tout ça a été rondement mené.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, quel bilan peut-on dresser de l'opération Copperhead? Beaucoup de spécialistes, beaucoup d'historiens ont tendu à limiter sa portée. Et pourtant, il me semble qu'elle n'est pas tout à fait nulle. Je cite de nouveau Tadeusz Holt. Au niveau plus élevé que les services de renseignement, ça n'a pas affecté les plans allemands aux abords de la Manche. Rundstedt a même pu ne pas être tenu au courant des voyages de Montgomery. Mais l'opération a eu l'effet désiré dans le sud de la France. La Fremde Heere West, qui traite de l'espionnage dans l'ouest de l'Europe, suggérant que la visite de Montgomery pouvait indiquer des opérations contre cette région en plus de l'invasion principale. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça contribue à semer le trouble. Et il est possible, comme ça, que ça ait joué un rôle dans le déplacement d'une division blindée dans le sud de la France. Une division entière, vous avouerez que ça n'est quand même pas nul. Si c'est ça, et on peut dire que notre Clifton James a très bien agi et très bien joué son rôle. De plus, il est à noter que les hauts responsables de la Wehrmacht ne s'attendaient pas à une attaque le 6 juin. Rommel, par exemple, vous savez, Rommel qui était chargé d'organiser toute la défense des côtes de l'Atlantique, se trouvait, on le sait, j'ai eu l'occasion de vous le raconter il n'y a pas si longtemps, se trouvait en Allemagne au moment du débarquement. Au-delà de ces questions qui appartiennent donc à la grande histoire, l'opération Copperhead est aussi un joli épisode de la petite histoire. C'est un exemple de toutes ces mystifications que les Alliés ont inventées pour préparer le jour J et pour créer cet écran de fumée qui allait aider à l'accomplissement, à la réussite du débarquement. Alors, vous allez me dire, qu'est devenu Clifton James après ses aventures méditerranéenne. Mais d'abord, il faut signaler que le vrai Montgomery a tenu à ce qu'il soit rémunéré au même niveau que lui pour les jours où il l'a incarné. Alors comme c'était un gros salaire, évidemment, pour lui, ça a été un cachet qui était assez intéressant. Et c'est vrai qu'il avait, après tout, très bien joué son rôle de général en chef. Après la guerre, il a tenté de reprendre sa carrière d'acteur. Il a aussi écrit des articles. Il a même été jusqu'à écrire, enfin, participer en tout cas à l'écriture d'un livre qui relatait l'opération Copperhead. Il a réinterprété également son rôle fétiche sur grand écran. Ah, ça c'était plus facile. Lorsque vous avez joué un rôle comme celui-là dans la vraie vie, ça devient relativement facile de l'interpréter à l'écran. Pas de quoi pour autant réaliser son rêve de devenir un grand acteur reconnu, mais après tout, avoir été un second rôle de l'histoire dont on parle tant et tant d'années après, je trouve que ça n'est déjà pas si mal.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le chapitre que Belmar et Namias consacrent au faux Monty commence par la fin de sa vie et c'est une anecdote qui mérite d'être racontée, je les cite. Les deux brancardiers descendent comme ils peuvent l'escalier, étroit d'un petit immeuble triste de Worthing, station balnéaire anglaise non loin de Brighton. Le malade qu'il transporte a l'air bien mal en point. Il vivait seul, c'est la concierge qui a appelé l'hôpital, elle était venue faire son ménage et l'a trouvé inconscient. Comme les brancardiers heurtent la rampe, le malade se redresse et crie d'une voix tonnante « Par Jupiter, faites attention, je suis le maréchal Montgomery, vicomte d'El Alamein !» Cet effort l'ayant épuisé, il retombe inanimé sur la civière. Les brancardiers échangent des commentaires apitoyés. Le pauvre vieux, c'est à l'asile qu'il aurait fallu le conduire. Grâce à Dieu, Monty est bien vivant. Je l'ai vu hier à la télé. Monty est bien vivant en 1964, mais celui qui se prend pour lui est bien en train de mourir. Et voici maintenant Pauline Lambert, en chair et en os. Ce n'est pas le sosie, c'est bien elle, c'est Pauline qui est là. Bonjour Pauline.
Bonjour Franck, et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. Avant de vous retrouver bien sûr demain matin à 9h.